Shabbos Kodesh. Yidel prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et Chodesh Tov sur Radio Judaïka, puisque aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Iyar et on se retrouve sur l'heure aujourd'hui et demain pour Rosh Chodesh Iyar. Comme chaque fois, on se retrouve avec le grand rabbin de Strasbourg et de sa région, M. Avraham Harolvei. Bonjour, Chodesh Tov.
Bonjour, Jean Chodesh Tov.
Comment se sont passées les fêtes de Pessah?
Écoutez, merveilleusement bien. C'était, je pense, une belle réussite. On a eu beaucoup de monde à la synagogue. Des sdarim communautaires qui se sont très bien passés. Il faut rappeler que malheureusement, pour cause de Covid et les dernières fautes d'un nombre suffisant d'inscrits, nous n'avions pas pu organiser ces sdarim communautaires. Et cette année, ça a été un bel événement communautaire. C'est très très bien déroulé, ainsi que tous les autres shiurim et les autres événements communautaires qui ont lieu tout au long de ces fêtes de Pessah.
Alors, cette semaine, nous lirons deux parashiot. On appelle ça Mechoubarim. C'est quoi exactement Mechoubarim? Ça veut dire
Mechoubarim, c'est-à-dire lié, tout simplement. Lié. Et comme vous le savez, nous avons un nombre de sidrot qui est supérieur au nombre de Shabbatot dans l'année, sachant qu'en plus, il y a le phénomène de fêtes qui peuvent parfois coïncider avec un Shabbat. Alors vous le savez, lorsqu'une fête coïncide avec un Shabbat, nous ne lisons pas la paracha de la semaine, mais une paracha spéciale. Et donc nous sommes forcément, pour respecter le calendrier et terminer la totalité de la lecture de ces sidrot en un an, bien nous sommes obligé de contracter un certain nombre de sidrot, de parachutes. Donc, bien sûr, on ne le décide pas, ça a été décidé par les sages. Il s'avère que Tazria et Metzora, qui parlent exactement du même thème, comme nous le verrons dans un instant, eh bien, sont la plupart du temps lus ensemble.
Le fait que ce soit Rosh Chodesh, ça change quelque chose?
Ça change quelque chose, dans le sens où cette année, c'est une année d'ailleurs un peu exceptionnelle au niveau de l'agencement du calendrier, et le fait donc que Rosh Chodesh coïncide avec Shabbat, ça c'est pas quelque chose de rare. C'est le fait que Rosh Chodesh Iyar tombe un Shabbat, qui est un peu plus rare, eh bien nous sortirons bien sûr un deuxième Sefer Torah, non pas pour lire la deuxième paracha, on ne lira pas Tazria dans un Sefer et Metzora dans un autre Sefer, Tazria Metzora sera lu dans le même Sefer Torah, mais en revanche, pour la lecture du Maftir, eh bien, nous sortirons un deuxième Sefer Torah pour y lire le passage relatif à Rosh Chodesh.
Alors, les parashiot qu'on lira demain, c'est Tazria et Metzora, l'allumage des bougies ce soir à 20h10 selon les calendriers, et la fin du Shabbat demain à partir de 21h22. Les horaires sont évidemment valables pour Strasbourg et sa proche région. Comme à chaque semaine et chaque émission, nous souhaitons une refoua shelema à tous nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Permettez-moi de dire cette émission à toutes les personnes qui nous ont quittés. Malheureusement, elles sont en nombreuses en ce moment, et plus particulièrement à Rivka Bat Shimon.
Votre maman.
Voilà, qui est décédée il n'y a pas très longtemps non plus. Avant de parler de la paracha, M. Douramin, je voudrais revenir sur un sujet d'actualité. Malheureusement, en Israël, chaque jour, il y a un attentat. Chaque jour, il y a des morts. Il y a des gens qui se font poignarder. On a eu l'histoire de cette famille terrible qui a perdu les deux filles et la maman la semaine dernière. J'aimerais comprendre. Qu'est-ce que vous en dites, vous, au regard des textes, et comment nous, juifs de diaspora et de France, on doit se comporter face à ce qui se passe?
Les gens, on est tous bouleversés, on est tous totalement atterrés par ce qui se passe. C'est, j'ai envie de dire, même pas une question piège, ce serait prétentieux, même ridicule, de vouloir interpréter ce qui se passe et ce regain de violence en Eretz au travers des textes. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui interpelle et qui bouleverse dans le fait qu'on a vu plusieurs familles touchées durement avec la disparition. Ça, c'est quelque chose qui choque. Et c'est quelque chose même qui interroge. On a vu plusieurs frères et sœurs être tués au cours de divers attentats en très peu de temps. Alors bien sûr, le dernier en date, celui qui nous a fortement marqué, c'est l'histoire de cette maman qui est décédée quelques jours après ses deux filles. Elle, malheureusement, morte et tuée sur le coup par un terroriste palestinien. Mais on a eu, dans les semaines qui ont précédé aussi, malheureusement, plusieurs histoires extrêmement tragiques, durant lesquelles on a deux frères ou des frères et sœurs qui ont été assassinés en même temps. Voilà, j'ai malheureusement absolument pas de questions et on se doit simplement de là où on est. Vous nous parlez de diaspora. Je ne sais pas si on a un moyen plus efficace, malheureusement, d'agir que ceux qui sont en Eretz Israël. Il nous reste que notre filote, hein, c'est-à-dire nos prières et espérer, bien sûr, du fond du cœur qu'au travers de cette filote, la situation puisse se calmer et qu'il y ait un retour normal à la vie en Eretz Israël.
On va parler maintenant plus précisément des parachutes, Tadria Mitzora. Pas très long le résumé que vous allez nous faire, mais les parachutes sont très techniques et très détaillées.
Alors, elles sont très techniques. Effectivement, elles sont peut-être un peu moins longues que d'autres parachutes couplées. Je pense notamment à Vayakel Pekoudé, à Matot Massé. Pour autant, elles ne sont pas non plus spécialement courtes. Et je peux vous dire que pour ceux qui ont Tadria Mitzora comme parachute bar mitzvah, elles sont justement tellement techniques dans les mots que je pense qu'ils se sentiraient un petit peu offensés par le fait qu'on qualifie ces sidrotes de courtes. Effectivement, vous l'avez dit. Mais elles sont très denses. Elles sont surtout très techniques. Ouais. Très techniques dans le sens où on va parler, comme vous l'avez dit, de lois de pureté et d'impureté. Donc c'est par définition un sujet qui est très technique. Les mots qu'ils vont employer sont des mots très techniques. Et une difficulté particulière dans ces sidrotes de Tadria et Metzora, c'est l'emploi du « hu » et du « hi », qui s'écrivent exactement de la même manière et donc qui rendent toujours la lecture de la Torah très très compliquée pour le lecteur, sachant que, vous le savez, la Torah n'est pas ponctuée, donc il faut savoir en fonction du contexte, et d'ailleurs même des fois le contexte n'aide pas forcément, c'est un peu arbitraire, pourquoi est-ce qu'on a écrit « hu » au « hi » donc il s'agit effectivement des lois de l'impureté humaine. Alors on va commencer par les lois qui concernent l'accoucher, et puis très rapidement on va switcher sur un autre sujet qui en réalité est toujours lié à des problèmes de pureté et d'impureté, mais là on n'est plus dans le cadre d'un accouchement qui est quelque chose de beau et j'ai envie de dire de naturel. On tombe dans une affection, on va le voir, qui n'est pas une maladie au sens physique du terme. Elle se manifeste par des symptômes physiques, mais on va le voir qui est plutôt une maladie qui traduit en tout cas un problème spirituel, hein, une déchéance spirituelle. Et c'est en fait à cela qu'est consacrée la quasi-totalité de la parachate Tadria et une grande partie de la parachate Metzora, la fameuse maladie du Metzora, donc on traduit très mal par lépreux, qui va se caractériser par l'apparition d'un certain nombre de symptômes, et ces symptômes qui vont être donc interprétés par le prêtre, par le Cohen, qui va donc devoir prendre des mesures par rapport à ce Metzora. Donc c'est toute cette technique qui va être abordée dans la parachat Tadria. Il y a plusieurs formes de cette maladie, ou bien elle touche l'homme directement, ou les vêtements. Il en sera aussi question dans la parachat Tadria. Et dans la parachat Metzora, eh bien, on nous fera part du processus de purification, parce que lorsqu'il y a un problème, il faut être capable de le régler. Donc la Torah ne fait pas qu'exposer des problèmes, mais elle en donne également les solutions. Et ces solutions, nous les verrons dans la parachat Metzora, où là il sera également question d'une troisième type de Metzora, de Tzara'at, pardon, qui est celle qui affecte cette fois-ci non plus l'homme ou les vêtements, mais les maisons. Et nous conclurons la parachat Metzora avec tout un nombre de règles, là aussi très techniques, de pureté et d'impureté concernant des écoulements, qui concernent aussi bien les hommes que les femmes.
Alors, vous l'avez dit, pureté, impureté. Alors, il y a un mot qu'on emploie souvent pour dire impureté.
Touma.
C'est Touma.
Oui.
Mais je sais que vous n'avez pas cette traduction-là. Vous l'avez dit plusieurs fois, ce n'est pas une traduction qui vous convient, en tout cas.
Effectivement, ce n'est pas une traduction qui me convient, même si elle est employée, elle est utilisée par la plupart des traductions classiques que nous avons de la Bible, du Tanakh, tout simplement parce qu'en français, lorsqu'on parle d'impureté, il y a une connotation extrêmement péjorative. Or, ce n'est absolument pas vers cette connotation péjorative que tend le texte lorsqu'il vient nous parler de Touma. La Touma, c'est tout simplement un changement d'état. Il y a un état qui s'appelle l'état de Tahara, et lorsqu'il y a un changement d'état, eh bien, la personne ou l'objet en question qui a contracté, donc, qui va contracter ce changement d'état, passe d'un état de Tahor à un état qui est un état de Tamé, mais qui n'est pas pour autant un état qu'on pourrait appeler un état dégradant ou un état qui ferait de la personne ou de l'objet en question un objet de moindre importance ou un objet de ou un état qui inspirerait du dégoût ou quelque chose qui a, comme je l'ai dit, une connotation négative. C'est un changement d'état. Et je vous en donne un exemple criant, puisque notre paracha s'ouvre justement sur les lois qui concernent pureté d'impureté, qui concernent justement l'accoucher. Une femme qui porte la vie, eh bien, lorsqu'elle va se séparer de cette vie de manière très très belle, pour que cette vie jaillisse à l'extérieur, et lorsqu'elle va donner naissance à cet enfant, eh bien, la vie l'ayant quittée, par définition, il y a forcément un changement d'état. Il y a un changement d'état d'une femme qui elle-même est vivante et qui porte la vie en elle. Donc nous avons un être vivant qui porte en lui un autre être vivant. Eh bien, lorsque cet être vivant, ce deuxième être vivant, va quitter ce premier être vivant, il y a forcément une vie qui va quitter ce premier être vivant. Eh bien, cette vie qui sort de cet être vivant, même si c'est pour prendre son indépendance, et donc c'est un beau moment, nécessairement, elle entraîne un changement d'état. Et ce changement d'état, eh bien, il se manifeste par... on le dit, par un certain nombre de symptômes, mais également par la nécessité d'un processus de purification. C'est intéressant, au bout duquel il y a une immersion dans le mikvé. Le mikvé qui est un bassin qui contient de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et donc, c'est finalement en se plongeant de nouveau à l'intérieur de ce qui symbolise la vie que nous allons pouvoir à nouveau, dans le sens inverse, provoquer un changement d'état et passer d'un état qui rappelle un petit peu l'absence de vie, ou une vie en tout cas qui a quitté une autre vie, pour... Eh bien, de nouveau, être dans un état de tahara, pureté, mais là non plus, je n'aime absolument pas ce terme. De la même manière que je n'aime pas le terme péjoratif d'impureté, la traduction de pureté, qui elle aussi a une connotation qui ne correspond pas du tout à celle de la Torah, eh bien, ne me plaît pas beaucoup plus que le premier terme.
Alors, une femme qui accouche, si elle a un garçon, pendant 7 jours, elle sera... impure.
Téméa.
Téméa, d'accord. Et si c'est une fille, c'est une 2 semaines. C'est un peu discriminatoire. Là, je pense que toutes les associations féminines vont nous appeler pour nous demander.
C'est tout à fait possible. A... On va tout de suite. Ouais. On va immédiatement couper le standard de Radio Judaïka. Hein, Lucas, si on peut immédiatement fermer le standard pour éviter d'être assailli de coups de fil. Vous avez raison. Genre, ça peut paraître très, très discriminatoire. Surtout lorsqu'on traduit Touma par impureté, effectivement. Ouais. Si on traduit Touma par impureté, qui serait un état dégradant, alors là, on peut se dire, mais c'est ultra discriminatoire. Déjà, cet état d'impureté colle a priori à la femme et pas à l'homme. Bon, manque de bol, ce sont les femmes qui accouchent et on n'a pas réussi encore à faire accoucher des hommes. Ça arrivera peut-être avec l'évolution de la médecine, mais pour l'instant, voilà, en l'absence d'utérus, il est un peu compliqué pour un homme de pouvoir donner naissance à un enfant. Donc on pourrait déjà y voir là, encore une fois, si on se basait sur cette traduction, qui est une mauvaise traduction, une forme de discrimination, bah alors cette discrimination est d'autant plus forte si, lorsqu'il s'agit de la naissance d'une fille, eh bien, cet état d'impureté est porté à 2 semaines alors qu'il n'est que de 7 jours pour un garçon. Alors, bien sûr, si on se base sur la traduction que je viens de donner, qui est tout simplement une absence de vie qui quitte, c'est un être vivant qui quitte un autre être vivant, alors on comprend qu'il n'y a non seulement rien de péjoratif, au contraire, quelque chose de très beau, de très noble dans ce changement d'état, et que dans ce cas-là, il n'y a plus rien de discriminatoire. Alors vous allez me dire, bah, dans ce cas-là, pourquoi 2 semaines alors pour une fille et une semaine pour un garçon, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une vie qui a quitté une autre vie. Alors là, je donne une explication qui est très personnelle. Une fille étant elle-même, on va dire, porteuse d'un potentiel de vie plus important, puisqu'elle va être amenée plus tard elle-même à pouvoir porter très la vie et donner la vie, eh bien, on peut imaginer que lorsqu'une fille sort du ventre de sa maman, c'est un potentiel de vie plus fort, plus important, qui va quitter ce premier potentiel de vie, et donc ça entraîne nécessairement un changement d'état qui est plus fort, qui est plus grand.
Il y a une explication que j'ai lue cette semaine qui disait que finalement c'était difficile pour... puisque le garçon fait la vrythmila.
Tout à fait. Alors,
donc il y avait un deuxième...
Exactement. Il y a aussi cette explication qui tend à dire qu'en réalité, cet état de Touma aurait dû être de 2 semaines aussi également pour le garçon, mais que par rapport à la brithmila, la Torah donnait la possibilité à la maman de pouvoir se purifier avant la brithmila. J'ai vu même une troisième explication qui est rapportée par le Oznaïm la Torah, le Rav Sorotskin, qui lui explique que par rapport à la constitution de l'homme et la femme, si on retourne vraiment à la parasha de Bereshit, l'homme ayant été constitué à partir de créé à partir de la terre, alors que la femme, elle a été à partir déjà de l'homme, donc à partir de sang. Par définition, l'homme est fait à partir de terre. Donc lui voudrait expliquer que pour des raisons purement techniques, eh bien, il y a plus de sang à la naissance de la femme. Ça peut être une image, mais de par finalement la constitution de la femme, originellement, qui est faite elle-même à partir des cellules, donc qui sont du sang, contrairement à l'homme, qui lui a été créé originellement à partir de la terre. Et donc c'est en finalement finalement, en réalité, cette quantité de sang qui engendrerait une touma, mais ça rejoint en fait une touma plus importante, et ça rejoint en fait l'explication que je viens de donner, Jean, qui est qu'en réalité, plus au potentiel de vie, le sang, c'est la vie. Et donc, plus ce potentiel de vie, finalement, est fort, plus la touma qui est générée sera forte. Mais c'est noble, c'est absolument pas péjoratif. Au contraire, c'est parce qu'il y a un grand potentiel de vie va quitter la femme qui vient d'accoucher, que la touma est forte. Et pas du tout parce que c'est quelque chose, comme je l'ai dit, encore une fois, de sale, ou parce que la femme se retrouverait souillée. Ouais. C'est absolument pas ce que la Torah vient exprimer au début de cette paracha.
Alors, vous avez passé de taches grises, ce qu'on appelle la tzaharat. Alors, il y a plusieurs niveaux de tzaharat. En plus, il y a le texte qui nous le dit, tzaharat ordinaire, la bacheret
et Bayret.
Pardon ?
La Baheret.
Baheret, excusez-moi. Ouais. Et le Seret.
Et le Seet.
Seet, ouais. D'accord. À quoi ça correspond d'abord ? C'est quoi la Tzaharat ? Et c'est quoi ces niveaux ? C'est des niveaux ou une différenciation d'appellation ?
Alors, vous posez beaucoup de questions en même temps.
Ouais.
Répondons déjà à la première question. Qu'est-ce que la Tzaharat ? Effectivement, on a tendance à se tromper. Le Rav Hirsch, tous les commentateurs plutôt modernes ont rappelé à quel point les interprétations avaient été totalement erronées, et surtout avec le temps et la distance, hein, depuis la transmission de ces lois, et le lecteur moderne a peut-être eu tendance à penser que le temps qu'il s'agissait ici d'une affection effectivement cutanée, c'est le cas ici, ce ne sont pas des symptômes imaginaires, mais des symptômes réels qui sont une affection cutanée, mais on a eu tendance à penser que la tzaharat était vraiment une maladie qui exprimait une vraie déficience physique, qui elle était le symbole tout simplement d'un dysfonctionnement du corps, et qu'elle était que les lois qui allaient être prises à l'encontre d'ailleurs de ce metzora, de la personne qui était affectée par touchée par la tzaharat, étaient tout simplement des lois sanitaires, et donc on voulait éviter une contagion, et que c'est pour ça qu'on mettait la personne à l'écart. Or, il ne s'agit absolument pas de cela, le metzora n'est pas contagieux. Si, il peut être peut-être contagieux de par le mauvais état d'esprit qui l'anime, et donc peut-être que de le laisser en société, si c'est une personne qui est néfaste de par son comportement pour la société, eh bien, pourrait occasionner des dégâts, mais ce n'est absolument pas sa maladie physique qui est contagieuse. Et donc, revenons donc à cette tzaharat qui n'est absolument pas la lèpre. En tout état de cause, la lèpre était pour le coup une maladie contagieuse. Là, il ne s'agit absolument pas d'une maladie physique contagieuse, mais bien d'une affection effectivement cutanée, et donc qui se manifestait par l'apparition de taches. Et on va donc nous parler de différentes manifestations possibles de cette tzaharat, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses très techniques. On va parler de plusieurs nuances de blanc, on va parler de ce qu'on peut appeler avot à tzaharat, c'est-à-dire on va dire deux tzaharat ici père ou plutôt mère en l'occurrence, et puis avec des nuances finalement de ces blancs, et c'est ça la sapachat, on va nous dire dans le texte c'est et au sapachat au Bayret. On va nous parler de trois termes différents. La sapachat étant en réalité un dérivé du Seet, mais qui peut être également appliqué à la Bayret. Donc on a Seet, je vais essayer d'être simple, je ne veux pas être trop technique pour les auditrices et les auditeurs. On aurait deux types d'affections, mère, qui serait la Seet et la Bayret, et qui elles-mêmes peuvent se diviser en une nuance un peu plus claire ou plus foncée, c'est une discussion aussi entre les commentaires, de ces deux types de tâches, qui sont des petites tâches, pas très grandes, hein, de la taille à peu près d'un haricot, et donc qui apparaissaient sur la peau, et qui correspondaient à des nuances en fait de blanc. Voilà, on va nous parler du blanc neige, on va nous parler également de la couleur de la pellicule de l'œuf.
Je vois qu'on avance et qu'on va passer tout point technique, c'est sûr. Ça qui est intéressant en fait dans le Metzora, c'est que on nous donne une explication. On nous dit pourquoi on peut être Metzora, en tout cas avoir cette affection. On parle de problèmes de Lachonara, de Motsishemra, de médisance en général. J'ai du mal à comprendre comment en disant du Lachonara, on peut devenir Metzora ou Tzaharat.
Alors,
je vois pas. Le rapport,
le lien de cause à effet. Alors tout simplement, on vient d'expliquer que, contrairement à ce que l'imaginaire aurait pu nous faire croire, cette affection physique n'est pas le fruit d'un dysfonctionnement du corps, mais d'un dysfonctionnement en fait qui est enfin qui n'est pas dangereux, on va dire, pour la santé physique de la personne, mais qui est tout simplement un dysfonctionnement un peu surnaturel, hein, qui est ici. Parce qu'il, pour le coup, il ne répond pas aux lois de la nature, on le sait, bien sûr, toutes les maladies et tous les dysfonctionnements sont par définition voulus par Dieu, et sauf que, en principe, ils s'inscrivent dans des dérèglements qui, eux, répondent à des règles naturelles que Dieu a mis en place dans le corps humain, et donc forcément, lorsqu'on a un corps défaillant, lorsqu'on a, Dieu ne plaise, un rein qui commence à dysfonctionner, eh bien, on a toute une série de dysfonctionnements en chaîne qui vont s'installer, mais là, qui sont, en réalité, qui répondent à, on va dire, des lois naturelles qui ont été inscrites au moment de la création de l'homme. Là, ce n'est pas le cas, là, c'est quelque chose de surnaturel qui ne répond pas à un dysfonctionnement d'un organe, mais qui sont là pour alerter sur un autre problème qui est d'ordre spirituel. Et ce problème d'ordre spirituel, vous l'avez dit, Jean, c'est effectivement un problème de médisance, un problème de calomnie, le metzora de diffamation, metzora étant la contraction de motzi shemra, donc motzi shemra, c'est le diffamateur, c'est celui qui va faire circuler des rumeurs qui sont absolument inventées, qui sortent d'une part, mais on a un interdit qui est tout aussi grave, qui est celui du lashon hara, qui est celui de, pour le coup, de la médisance, et qui peut concerner même des faits avérés, mais qui porterait atteinte à l'intégrité de la personne et à sa dignité. Et donc, c'est vraiment sur toutes ces lois qu'on veut un petit peu nous alerter au travers de cette paracha. Et je crois que la gravité ici de la sanction qui touchait le Metzora, puisqu'elle est la seule impureté qui entraînait ici un isolement, c'est des termes qui sont malheureusement qui ont pris une connotation tout à fait particulière depuis l'épisode du Covid dans nos esprits, eh bien, montre à quel point ces lois-là étaient des lois qui nous demandent en tout cas de réfléchir à ce problème. Et
si,
vous imaginez
si
que c'est la Torah.
Parlé,
c'est...
Je crois, si on a quand même me faire mal aux lèvres ou me faire une infection uniquement aux lèvres, pourquoi tout le corps, pourquoi cette idée-là de mettre une lettre sur tout le
alors
corps.
Alors vous poussez, effectivement, Jean, vous poussez la réflexion plus loin, parce qu'on verra que dans l'interdiction, dans un premier temps, de se raser, effectivement, c'était ou des parties qui étaient affectées, qui tournaient justement autour des organes qui avaient été responsables, les sourcils, la bouche, etc., qui sont des organes directement liés à la problématique de la médisance. Mais, effectivement, vous avez raison de souligner que cette affection, elle concernait tout le corps, et je pense qu'il faut y voir ici le fait qu'en réalité, cette faute-là est une faute qui concerne bien plus que l'organe de la bouche. Lorsqu'une personne se rend coupable de médisance, c'est en réalité une atteinte à l'ensemble, c'est un dysfonctionnement de l'ensemble, en réalité, de la personne. C'est ça ce qu'on veut nous dire. C'est qu'on ne peut pas déconnecter finalement la parole de la personne du reste de ses actions.
Vos pieds,
de
ils ne sont pas en rapport avec
ils sont totalement liés, parce que le Lashon Hara, il entraîne par la suite un certain nombre finalement de mauvaises actions, et même et mes pieds qui m'ont amené jusqu'à la personne, parce qu'il me faut forcément une personne en face de moi pour dire du Lashon Hara, donc j'ai fait participer mes pieds. J'ai fait participer mes mains, peut-être par les gesticulations, la gestuelle qui va être la mienne au moment où je vais parler, où je vais désigner la personne. Donc c'est un dysfonctionnement en réalité de tout le corps. Et c'est ça ce qui est important, Jean. C'est de nous dire que lorsque finalement la bouche dysfonctionne, c'est tout l'être qui dysfonctionne.
Alors on va à la deuxième partie de la Metzora, qui est un sujet qui nous intéresse particulièrement, nous les hommes. C'est l'interdiction de se raser. Alors on nous dit il interdit de se raser. Mais c'est des endroits précis où on a le droit, d'autres où on n'a pas le droit. Je ne comprends plus comment il faut se couper les cheveux, comment il faut se raser.
Alors, en fait, vous faites allusion, Jean, au processus de purification. Le début de la parashat Metzora nous parle du processus de purification, puisque, comme je l'ai dit, lorsque la Torah nous parle de problèmes, elle doit nous en donner les solutions. Nous avons vu dans la parashat Tazria quelles étaient les différentes affections qui pouvaient pousser le Kohen, parce qu'il s'agit bien du Kohen et non pas du médecin ou de l'urgentiste du coin, définir. Vous voyez bien, donc, il ne s'agit pas d'une maladie physique, sans quoi on serait allé voir le médecin ou le guérisseur. On ne se serait pas adressé à un Kohen qui n'a pas fait d'études de médecine et qui n'est pas qualifié plus qu'un médecin pour reconnaître une maladie ou une affection physique. Or là, puisqu'il s'agit d'une affection spirituelle, si elle se manifeste par des symptômes physiques, on va voir le Kohen. Le Kohen qui est un peu le Rav de l'époque et on va dire le représentant, l'autorité spirituelle de l'époque. C'est ce qu'on a vu dans la parasha Tazria et on a vu également la mise à l'écart, la mise à l'isolement du Metzora. Dans la parasha parachat Metzora, on va voir comment est-ce qu'on sort de cet état. C'est important de savoir comment est-ce que la personne va pouvoir sortir de cet état. Donc il y a une réflexion, il y a une introspection qui est permise grâce justement à cet isolement. La personne se retrouve seule, elle se retrouve seule avec elle-même, et elle a donc l'occasion de méditer sur le mal qu'elle a pu commettre vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de la société tout entière. Une fois cette prise de conscience effectuée, le Metzora rentrait dans un processus de réintégration de la société qui se faisait en trois étapes. Et la deuxième de ces trois étapes, là aussi, on ne va pas éviter les détails trop importants et trop nombreux pour nos auditrices et nos auditeurs, c'était le rasage. Effectivement, le rasage, c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est une étape qui se trouve au milieu, comme si elle représente un peu l'équilibre aussi de, de ce processus de purification. Eh bien, le rasage se faisait par rapport à des organes particuliers qui sont mentionnés, en tout cas mis en avant par le texte, parce que bien sûr quand on parle de rasage, nous, on pense directement à la tête, mais il peut y avoir des poils un petit peu partout sur le corps, et là on va essentiellement donc parler de la tête, de la barbe et des sourcils. Effectivement, ce sont trois organes qui sont directement en lien avec la faute qui a été commise. Donc la tête, hein, la tête, c'est le siège de l'intellect, c'est ce qui est sans doute le siège aussi de tous les maux, de ce qui a amené le Metzora dans un manque de réflexion ou dans une exaltation à commettre toutes ces imprudences au niveau de l'utilisation de la parole. La bouche, bien sûr, hein, lorsqu'on parle de la barbe, c'est ce qui entoure les lèvres.
Mais quel rapport entre la bouche, entre les poils et le fait de ne pas parler ou...
Alors justement, le fait de raser à ce moment-là ces poils-là, ça serait attirer l'attention justement sur le Metzora par rapport à l'utilisation de ces organes. Comme si de nouveau on les dégageait à ce moment-là, vous savez, lorsqu'on va les raser, on va les rendre peut-être plus visibles et du coup, eh bien, peut-être aussi leur redonner toute leur noblesse et toute leur importance.
D'accord. Alors on va parler de mardi 25 avril prochain, il y aura une cérémonie à la Grande Synagogue pour Yom HaZikaron et le soir, il y aura à 20h dans le salon de l'Esplanade, une fête de Yom HaTzmaout, 75 ans. Question piège, je ne voulais pas donner avant. Est-ce qu'il faut faire Hallel le jour de Yom HaTzmaout?
C'est une bonne question, c'est une question qui est très controversée. C'est une question, je pense, qu'on n'aura jamais fini de trancher, qui a toujours divisé, on va dire, les décisionnaires. Et même parmi les décisionnaires qui sont plutôt, on va dire, de tendance ou assimilés au courant sioniste religieux, il y a plusieurs avis. Ceux qui pensent qu'on récite le Hallel avec bénédiction, ceux qui pensent qu'on le récite sans bénédiction. On trouve même dans le courant, on va dire, un peu moins sioniste religieux, plus Haredi aussi, des décisionnaires qui pensent qu'il faut... dire le Hallel. Donc on va simplement laisser chaque Kahal faire comme il a toujours fait, selon sa tradition. Si vous venez ici à la Grande Synagogue pour l'office du soir ou au Merkaz pour l'office du matin, l'office est récité avec le Hallel, qui est récité sans bénédiction. Dans certains Kahalim, il est récité même avec bénédiction. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Kahalim en France qui le font avec bénédiction, mais j'imagine qu'il y en a. Il y en a d'autres qui ne récitent pas du tout le Hallel. Et voilà, le mieux est que chacun aille prier là où il se sent non seulement le mieux, mais on va dire en adéquation avec ce qui se fait à l'intérieur du Kahal. Ce qui est en tout cas indéniable, c'est que nous célébrerons un moment très très important dans le calendrier juif. C'est un moment qui a finalement, quelle que soit notre vision de l'État d'Israël, qui a été décisif par rapport à la manière dont le judaïsme a pu s'organiser après la Shoah.
À noter que vous interviendrez mardi soir pour le Yom HaZikaron.
Tout à fait.
Vous ferez un drash qui sera sûrement très intéressant, comme chaque année. Merci, monsieur le grand rabbin. Shabbat shalom. Si Dieu veut, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Lucas pour la réalisation technique de cette émission. À vous tous et à vous toutes. Chodesh Tov et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidel prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.